Les nuits de France Culture, une nuit anglaise, ô combien anglaise, puisque commencée en duplex avec la BBC, en compagnie de Denis Nolan. Denis Nolan qui nous a raconté ce qu'est la BBC à la radio, en quoi consistent les programmes des différentes chaînes de radio de la BBC. Extrait d'émission à la clé. Et puis nous aimons cela, nous décrire un pays à travers le son, les sons de sa radio publique. Nous retrouverons en toute fin de nuit Denis Nolan. Une nuit anglaise donc au cours de laquelle vous avez pu suivre et vous pourrez suivre de nombreux rendez-vous avec beaucoup d'écrivains, William Thackeray à l'instant, mais aussi Saki, Agatha Christie, Woodhouse, Doris Lessing. Mais encore une tribune de Paris qui donnait en 1954 quelques conseils aux Français se rendant en vacances en Grande-Bretagne. Puis un De Bouche à Oreille qui s'intéressait à l'assiette anglaise, la nourriture, et un Monde insolite qui, tel un guide touristique en 1972 sur France Culture, faisait toute la lumière sur l'Angleterre et ses fantômes. Bonsoir Clémentine Beauvais.
Bonsoir Philippe Garbier.
Alors vous aussi vous vous trouvez loin de nous dans un studio de la BBC et vous aussi vous avez votre place dans cette nuit anglaise. C'est la place d'une jeune femme française qui vit depuis des années en Angleterre, qui y travaille et qui ne se contente pas d'y travailler d'ailleurs comme enseignante chercheuse en sciences de l'éducation à l'université de York, mais qui écrit, tant mieux pour nous, et qui publie, tant mieux pour nous. Alors avant de nous parler de votre dernier roman, Brexit Romance, publié chez Sarbacane, un roman qui aurait pu s'intituler, pour parodier un film des années 70, « À nous les petites Françaises » ou « À nous les petits Français ». Dites-nous comment la jeune Française que vous êtes, que vous étiez et que vous êtes encore, Clémentine Beauvais, a débarqué un jour en Angleterre et ne l'a plus quittée.
J'ai débarqué un peu en fait comme l'héroïne du livre, à 17 ans, complètement obsédée par la Grande-Bretagne et par le romantisme effréné des romans du 19e que j'avais lus, par toute la magie à Harry Potter aussi. J'étais très émerveillée en fait. J'arrivais à Cambridge en plus, ville où on va depuis Londres, par la gare de King's Cross, etc., avec tout l'imaginaire associé. Et donc j'étais complètement, j'étais vraiment très passionnée par la Grande-Bretagne. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de très jeunes femme. Et donc voilà, après je m'y suis installée et après 13 ans, j'ai une vision qui a changé, mais qui est toujours de temps en temps émerveillée et puis de temps en temps un peu agacée. Mais en général émerveillée.
Vous arriviez comme quoi? Comme jeune fille au pair? Comme jeune étudiante?
J'arrivais comme étudiante, ouais. J'arrivais pour faire ma licence.
Oui, mais alors comment y reste-t-on? Parce qu'il y a plein de jeunes étudiantes, de jeunes étudiants français qui sont arrivés en Angleterre et qui sont rentrés en France, revenus en France.
Rentrés au pays. En fait, il y a beaucoup d'étudiants quand même qui ont tendance à rester en Grande-Bretagne. Après, les Français, c'est vraiment un tout petit contingent quand même d'étudiants en Grande-Bretagne par rapport à des tas d'autres nationalités. Et moi, je suis restée parce que tout de suite, j'ai trouvé que c'était un pays qui me correspondait vraiment beaucoup en termes de personnalité, en termes de société. Il y a beaucoup de choses qui ont tout de suite, les Anglais vous diraient, cliqué avec moi et ça me correspondait beaucoup. J'étais très heureuse là-bas très vite. Et puis, plus j'ai découvert ce pays, les habitants, etc., plus je me suis dit, en fait, je veux travailler là-bas et puis je suis restée.
Alors, Brexit ou pas Brexit, Brexit plus tard, en tout cas, Brexit romance, ça c'est le titre et ça ne bouge pas, c'est une comédie pour la jeunesse, Clémentine Beauvais, que vous avez écrite. Vous avez déjà publié plusieurs romans, comme Des images, Les petites reines, Songe à la douceur. Alors c'est des romans traduits dans le monde entier, il y aura bientôt un film je crois pour Les petites reines, mais je crois que je le sais, je le prouve, que les adultes peuvent aussi s'intéresser et rire en lisant ce roman, et ils ont beaucoup à apprendre aussi de l'intérieur sur les effets collatéraux ou très directs du Brexit. Donc, puisqu'il faut bien parler du Brexit, vous avez cité votre petite héroïne, enfin vous l'avez cité, vous n'avez pas donné son nom, Marguerite Fiorel, mais il y en a d'autres. Mais voilà, elle va profiter du Brexit. C'est ça le sujet de votre roman.
En fait, le sujet du roman, c'est ce qui se passe quand d'entreprenantes jeunes personnes, en particulier une jeune britannique, une jeune londonienne, décident de fonder une start-up afin de marier ensemble des Britanniques et des Français pour que les Britanniques épousent les Français et obtiennent la nationalité de ceux-ci après le Brexit pour qu'ils puissent conserver leur citoyenneté européenne. Voilà, donc c'est ce petit monde là des Londoniens et des Londoniennes qui sont très europhiles, qui ont ça très à cœur, etc. Et puis puis le reste de la Grande-Bretagne et le reste et puis des Français qui arrivent en Grande-Bretagne et qui vont commencer à voir ce que c'est, voilà, en Grande-Bretagne, de vouloir ou pas conserver une identité européenne, de vouloir ou pas sacrifier ce fameux passeport européen. Et ça devient une espèce de comédie romantique et comédie politique, puisqu'ils découvrent que voilà, qu'on décide pas quand même de cette manière de se marier, de contracter un mariage blanc dans le but d'obtenir un passeport. Voilà. Donc c'est vraiment une comédie entre deux cultures et entre deux langues. Mais oui, bah, c'est sûr qu'il est beaucoup, beaucoup question de politique et des sensibilités politiques des uns et des autres, parce que c'est un débat qui a tellement déchiré le pays que ça se ressent forcément, même dans une littérature qui se veut plutôt divertissante.
Oui, mais de toute façon, c'est très important et c'est bien joué, Clémentine Beauvais, parce que finalement, tous les personnages s'intéressent à la politique, à la Brexit, pas Brexit, les effets, en effet, bon, sauf votre héroïne, parce qu'elle, elle n'est pas du tout politisée. En tout cas, elle peut aller, il y a un beau lord qui passe, elle peut aller vers lui comme ça, sans se demander du tout quelle est sa position politique. Ça l'intéresse pas. Enfin, on imagine qu'en France, peut-être, elle aurait peut-être réagi un peu différemment.
En fait, ce qui est important pour moi avec Marguerite comme personnage, c'est que oui, elle est apolitique et donc du coup, ça veut dire que par définition, finalement, elle est complètement en accord avec la classe dominante en Grande-Bretagne, avec l'aristocratie. Parce que pour moi, les Français, beaucoup de Français ont un imaginaire de la Grande-Bretagne qui par défaut soutient cette espèce de glorification, de célébration de la classe aristocratique. Les Anglais, les Français, pardon, quand ils parlent de l'esthétique anglaise, ils veulent dire l'esthétique des manoirs, des murs William Morris, des grandes landes désolées où on fait de la chasse à cour, etc. Et en fait, c'est très romantique pour les Français de penser à ça. Mais en Grande-Bretagne, ça correspond vraiment à une violence symbolique et politique très forte, c'est-à-dire que c'est une société qui est vraiment profondément divisée par classe. Donc oui, quand Marguerite tombe amoureuse du Lord, évidemment, c'est tout son passé français d'une certaine manière qui parle, c'est tout son imaginaire comme ça des lords à cheval, etc. Et petit à petit, elle va se rendre compte que cet amour-là, que cette attraction-là, elle n'est pas dénuée de conséquences, de ramifications politiques. Ça veut dire qu'elle épouse de facto tout l'imaginaire européen de l'Angleterre comme étant une société extrêmement divisé par classe, où il y a vraiment un pouvoir économique et politique très très fort qui s'exerce vraiment de manière violente sur certains milieux sociaux plus que d'autres.
Alors, elle rencontre d'ailleurs une femme politique française connue qui est très proche des idées de ce lord. Enfin bon, on laissera au lecteur de Brexit Romance la curiosité, voilà, comment se passera cette rencontre. Je disais qu'elle est chanteuse, vous ne l'avez pas dit, chanteuse d'opéra, soprane. Elle a obtenu le Grand Prix Radio France, on la félicite. Elle est passée dans la boîte à musique de Jean-François Zigel. Elle a donné des interviews à la BBC Radio 3. Ça, on en parlera à Denis Nolland, parce que c'est sa radio. Ça, c'est les effets de réalité. Cette petite jeune fille, donc, de 17 ans, elle existe bien. Et son rôle romanesque, c'est quoi? C'est un petit peu l'ingénue qui permet de... Ça fait des effets comiques, quoi, en effet, parce que tous les autres, évidemment, les Anglais ou non-Anglais, eux, comprennent mieux ce qui se passe, enfin, et les dangers de tout cela, et l'immoralité de ces mariages blancs qui pourraient ne pas rester blancs et qui sont... Parce que la loi interdit tout ça. Mais elles, son principe, comme ça, c'est d'être un petit peu la lectrice que vous recherchez, enfin...
Bah, pour moi, Marguerite, c'est vraiment, enfin, narrativement parlant, c'est un point d'entrée parfait pour, à un moment du roman, partir de Londres et aller vers la province anglaise. J'habite moi-même dans le Nord, puisque j'habite à York. J'ai jamais vécu à Londres. Je me suis jamais identifiée ni aux Français de Londres, ni aux Londoniens ou Londoniennes. Et c'est vrai que, bon, bah, pour la plupart des Français, l'Angleterre, c'est Londres. C'est-à-dire que très souvent, on me dit, quand est-ce que tu rentres à Londres? Et t'es à Londres en ce moment? Non, je ne suis pas à Londres. Je suis dans le Nord de l'Angleterre. Et là, elle va découvrir un monde qui est très différent, en fait, du monde très millennials, très hipster, très entrepreneur et start-up de Londres, qui est là où se passe toute la première partie du roman. Et donc, elle, par son ingénuité et par son romantisme exacerbé de la Grande-Bretagne, c'est ça qu'elle cherche. Elle cherche la campagne. Elle veut être dans un manoir à la Downton Abbey. Et par cet élan-là qu'elle a, ça permet d'ouvrir le roman, du coup, sur cette province anglaise et ce qu'elle va y trouver. Donc, narrativement parlant, c'est ça son rôle. Après, d'un point de vue plus émotionnel, pour moi, Marguerite, ce qu'elle représente aussi, c'est cette espèce de d'illusion en fait qu'on peut avoir d'être de vivre une vie comme dans les livres, ce qui est évidemment un grand motif dans la littérature en général. Et donc elle est complètement perplexe par rapport à cette imposture amoureuse à laquelle la londonienne la présente d'une certaine manière. Et donc voilà, donc elle, c'est un des portraits de ce romantisme là il y en a un autre, c'est son maître de musique, hein, Kamenev, qui lui est dans une autre sorte de passé. Lui, c'est vraiment un marxiste-léniniste de la vieille école, d'une certaine manière.
Il lit l'humanité dans l'Eurostar.
Il croit profondément à la lutte des classes. Et en fait, quand il arrive en Grande-Bretagne, notamment à Londres, il va être présenté à des cercles intellectuels complètement différents, qu'au début, il ne supporte pas, qui sont les jeunes londoniens, les jeunes londoniennes, féministes intersectionnelles, qui vont lui parler à lui, en fait, d'une autre forme de gauche, qui est un engagement politique, justement, de toutes les luttes à la fois. Et lui, il y résiste énormément. Donc en fait, les deux personnages de Marguerite et de Kamenev sont des personnages qui sont français, mais qui sont aussi ancrés dans deux imaginaires assez passés par rapport à ce qu'ils rencontrent en Grande-Bretagne. Après, pour moi, c'est assez nuancé, c'est-à-dire que je pense pas que l'un soit meilleur que l'autre et que nécessairement la modernité des londoniens et des londoniennes soit la seule solution. Mais c'était intéressant pour moi de confronter ces imaginaires-là, parce que je les vois souvent en tant que française en Grande-Bretagne. Ça fait partie des grandes incompréhensions pour moi, politique, entre les Français et les Britanniques.
Mais vous êtes devenue quoi alors, Clémentine Beauvais? Vous écrivez, pour un Français, il faut apprendre non seulement la grammaire, le vocabulaire anglais, et bien sûr aussi, il faut avoir l'accent, mais surtout la manière de parler, absolument indirecte et totalement peu claire, et pourtant d'une grande précision dans son vague absolu. Et tout ça pour devenir tout à fait britannique. Alors je ne sais pas si votre héroïne va devenir britannique, mais vous-même, Clémentine Beauvais, est-ce que vous l'êtes devenue?
Eh ben, alors pas, j'ai pas encore le fameux papier, mais c'est mon intention, ouais, de demander la nationalité britannique. Je dois dire que ça avait été mon intention depuis des années et des années. Il fallait que j'attende. En fait, c'est après 5 ans de payer des impôts en Grande-Bretagne, ce qui est logique, qu'on peut demander. Donc pour moi, c'est maintenant. Je dois dire que pendant des années, j'étais extrêmement désireuse d'avoir ce passeport britannique. Depuis le Brexit, ça va quand même un peu, je l'ai un peu dans la gorge. Mais bon, je vais quand même demander cette nationalité parce qu'il me paraît important de pouvoir voter, etc. Mais c'est vrai que l'une des grandes différences entre français et britannique, c'est évidemment ce côté direct du discours pour les Français. Alors que en Grande-Bretagne, voilà, tout est un petit peu avec des circonvolutions, etc. Cela dit, moi, ce que je trouvais très important de dire, et ce qui est dit dans cette phrase, c'est que en même temps c'est extrêmement clair. C'est-à-dire que c'est d'un vague absolu, mais tout le monde connaît les règles exactes de ce vague. Donc on sait très bien que quand on dit I'm afraid I'm not quite sure I can get this done by Tuesday, ça veut dire je vais pas le faire avant mardi. Il y a aucune chance, mais vraiment aucune chance. Mais tout le monde le sait. Mais c'est vrai que pour un Français, ça peut paraître extrêmement étrange d'entendre ça, parce qu'on dit mais juste dis-moi que tu vas pas le faire. Et ce qui est marrant, c'est que ça se reflète un peu avec cette histoire de Brexit, c'est-à-dire que on est dans une espèce de flou où les même qui est mis en place, mais pas seulement par May et sa bande, hein, aussi, je vois dans les universités, etc., les difficultés supplémentaires qu'il y a à faire quoi que ce soit maintenant qui est rapport avec l'Europe montrent en fait cette espèce d'abandon. Déjà, on a déjà abandonné tout ce qui était en rapport avec l'Europe. Il n'y a pas besoin de le dire clairement, il suffit de le montrer par ces espèces de circonvolutions. Voilà.
C'est ce qui fait aussi l'intérêt de toute littérature, justement, qu'on n'aille pas directement à ce qu'on raconte, mais que ça soit par des chemins de traverse.
Alors oui, et en même temps, moi, ce que je trouve assez marrant, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans le
Fanny,
roman, c'était...
Fanny, vous voulez dire. Marrant, Fanny, mais comment prononcez-vous Fanny d'ailleurs?
Moi, je le prononce Fanny.
Parce que votre personnage, il y a un personnage qui prononce...
Il dit Fanny.
Voilà. Ouais. Ça, c'est pour faire aristocrate.
Voilà. Mais après, c'est vrai que moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire que oui, en littérature, bien sûr qu'on parle par évocation, par allusion, par métaphore, etc. et qu'on mobilise comme ça un imaginaire différent du discours habituel. Mais par contre, ce qui m'intéressait là, c'était aussi de parler entre deux langues. Donc le livre est écrit en une espèce de franglais ou plutôt une espèce de pseudo-traduction où il y a des passages où il y a vraiment des calques. Alors vraiment, les calques, ce qui est complètement illégal en traduction à l'école. Et là, c'est vraiment un livre qui, pour moi, glorifie le calque, glorifie la surtraduction, l'anglicisme, etc. Parce que justement, je voulais une langue qui reflète cet entre-deux langues, cet entre-deux cultures qui m'intéressait pour le bouquin. Et donc, justement, en mariant les deux, le côté cache des Français et le côté extrêmement tourné autour du pot des Britanniques, on arrive à un produit littéraire, un objet littéraire qui est intéressant.
Et qui est comique, en tout cas. C'est vrai que c'est une comédie. C'est très amusant. Et puis, c'est un livre de vocabulaire aussi. On a l'impression que les parents pourraient offrir ce livre, et l'offre, j'imagine, Brexit Romance, à leurs enfants pour qu'ils parlent l'anglais tel que les Anglais le parlent.
Ouais, mais honnêtement, je pense que les parents apprendraient beaucoup plus de mots parce que il y a tellement de mots qui sont extrêmement caractéristiques aussi des discours d'un autre type de langage cette fois, qui est celui du langage d'Internet, des réseaux sociaux, et qui celui-là est des néologismes en fait qu'on emploie avec ou sans hashtag, et qui celui-là est plus inconnu des parents. Je dirais en général que c'est un livre, bon, les premiers retours que j'en ai eu, qui se lit surtout en fait entre 15 et 30 ans, on va dire. En fait, j'ai vu que ça s'est un peu étendu par rapport à mon lectorat des livres précédents qui étaient plutôt ados, et il me semble que ça veut dire quelque chose. Je pense que ça parle à une génération aussi qui a cette espèce de spontanément, en fait, cette espèce de mélange des langues. De mélange des langues, de confrontation politique permanente sur des sujets du quotidien, que ce soit la nourriture, que ce soit la manière de s'habiller, que ce soit le lieu où on travaille. Et donc, c'est un discours qui les habite déjà. Et donc, ils se retrouvent peut-être plus dans le livre que les générations du dessus, on va dire.
Mais il y a les mots, Clémentine Beauvais, mais sauf que les mots peuvent dire tellement de choses différentes. Quand on dit « don't ask », ça veut dire « demande-moi ».
Ah oui.
C'est pour ça qu'on aime les Anglais, sans doute.
Bah oui, enfin dans la plupart des cas. Et ces mots-là, c'est vrai que c'est intéressant parce que, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que c'est aussi une essence littéraire propre, c'est-à-dire que toute cette littérature britannique dont on est très amoureux en France, il me semble, que ce soit Austen, que ce soit les sœurs Brontë, ou même que ce soit les plus contemporains et les plus contemporaines, c'est aussi une littérature qui fonctionne beaucoup sur ces ambiguïtés de discours où on lit beaucoup de personnages, de personnalité des personnages. Dans ces espèces d'espaces textuels. Alors oui, en effet, quand on répond « fair enough », eh ben, ça peut vouloir dire qu'on est très vexé, ou alors ça peut vouloir dire que oui, ben, non, on comprend tout à fait la raison. Et pareil avec « quiet », ça permet de répondre sans répondre. Et ces réponses sans réponse, c'est littérairement parlant extrêmement intéressant.
Vous dites aussi, Clémentine Beauvais, parce qu'il y a toujours un va-et-vient entre l'Angleterre et la France, en tout cas entre les Français et les Anglais, et pour cause, parce que je disais à nous les petites Françaises ou à nous les petits Français, c'est que c'est une marchandise, hein, là, enfin justement pour le passeport. Vous dites que quand les Anglais entendent parler des Français entre eux, ils ont toujours l'impression qu'ils s'engueulent, ce qui n'est pas le cas quand on entend parler des Anglais, qui peut-être se disputent, mais on ne le comprend pas toujours.
Bah, de toute façon, pour les Britanniques, ils sont complètement, très souvent, très, très terrifiés quand on est entre Français, parce que ils ont l'impression qu'on a passé toute la soirée à se taper dessus, qu'on se reverra jamais, qu'on se déteste, que ça y est, notre amitié est terminée, etc. Alors que c'est absolument pas le cas.
Alors qu'il faut être justement, good sport.
Il faut être un good sport, oui, il n'y en a pas beaucoup qui diraient ça, mais c'est sûr, et c'est ces clashs-là, ces petits clashs culturels qui sont très très intéressants, parce que en fait ça masque énormément de choses politiquement parlant, c'est-à-dire que le fait qu'en France on s'engueule sans aucun problème autour de la politique à table, ça permet aussi un éclaircissement de pas mal de positions, une confrontation directe, et en fait très peu de changements très peu de changements d'opinion finalement. Et en Grande-Bretagne ça se fait de manière plus subtile, on parle assez peu de politique, sauf si on est entre amis très proches. Il y a beaucoup de, on cherche beaucoup l'accord, on cherche à éviter la discorde très souvent. Et après, ça peut avoir plusieurs effets, soit celui de concilier véritablement des opinions, soit celui de mener en fait à des opinions qu'on met en bouteille, qu'on garde sur le côté, et ensuite avec les conséquences qu'on voit maintenant, où on se retrouve avec des pays qui sont, enfin, un pays qui est complètement divisé parce que ces discussions politiques n'ont pas eu lieu de la manière dont elles auraient dû se mener.
Complètement divisée, mais l'autre héroïne, c'est-à-dire Justine, l'anglaise, cette espèce d'entremetteuse qui crée une start-up pour faire des mariages blancs, enfin oui, pour faire des mariages en vue du passeport, elle fait ça pour de l'argent, ça ne va pas marcher très fort, mais enfin c'est ça qui fait l'intérêt de la comédie. L'un de ses meilleurs amis, c'est justement ce jeune lord, dont elle est plutôt de gauche, elle connaît très bien les opinions du jeune lord en question, en tout cas de son père, qui est quoi, l'équivalent du Front National en France. Enfin.
Et oui, et
ils sont amis.
Oui, ils sont amis.
C'est peut-être pas possible en France quand même.
En fait, je me dis c'est aussi un bond d'imagination en Grande-Bretagne, parce que je trouve notamment dans cette génération-là, dans ma génération et celle un peu plus jeune, c'est difficile les amitiés entre les bords politiques. Et je me demande si c'est pas de plus en plus difficile d'ailleurs. Et donc elle, oui, enfin ils sont amis, mais elle le crie pas sur tous les toits non plus. Et c'est vrai qu'elle le fait pour l'argent, mais en fait elle le fait aussi pour cette espèce d'imaginaire, d'idéal politique. Et je pense que ce qu'elle a cherché dans sa start-up, c'est à faire ce que beaucoup de jeunes essayent de faire de nos jours, c'est-à-dire de concilier idéaux politiques, convictions et manière de faire même pas des masses d'argent, mais de simplement avoir un travail et de fonder une entreprise. Et donc voilà, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Et donc oui, voilà, dans ce côté-là très pragmatique, s'il faut qu'elle fasse un mariage, enfin qu'elle organise un mariage blanc pour ce lord-là, et ben elle va le faire.
On ne gâche pas une belle histoire d'amour par un mariage, on ne gâche pas une belle histoire de mariage par un amour. C'est son principe, son principe secret, parce que cette start-up est secrète, puisque illégale. Clémentine Beauvais, merci. Donc je rappelle le titre de votre roman, de cette comédie britannique, Brexit Romance, c'est chez Sarbacane, c'est votre quatrième roman, j'espère qu'il se trouvera autant de lecteurs qu'il en a trouvé, des dizaines et des dizaines de milliers jusqu'à maintenant que les autres en ont trouvé. Brexit Romance, c'est ça, c'est le titre, il sera traduit en anglais un jour ?
On espère, mais pour l'instant ça se profile pas, contrairement aux autres, donc voilà, fingers crossed.
Ce qui veut dire ?
On croise les doigts.
Merci. La nuit anglaise continue, elle continue à écouter avec les décraqués, on ne dit pas de quoi il est question. Et puis après, il sera question, alors là, d'Agatha Christie, des humoristes anglais Woodhouse et de Doris Lessing.